Et c'est au tour d'Yvan Deslauriers de nous offrir sa chronique. Yvan, à vous la parole.
Merci beaucoup. Alors, c'est un article qui a été écrit par Catherine Harvey, Catherine Harvey-Pinard, dans la presse d'hier, qui touche une dimension du sport qui est pour l'instant encore négligée, mais avec la progression vraiment intéressante des différents sports féminins, je pense que c'est un aspect de la société qui vaut la peine de considérer. Alors, c'est intitulé « Changer la game pour un milieu sportif plus inclusif » et ça s'appuie sur une démarche du Réseau des lesbiennes du Québec. En introduction, on dit que, alors que le sport féminin ne cesse de grandir et est au cœur de l'activité sportive ces dernières années, le Réseau des lesbiennes du Québec, le RLQ, lance une campagne de sensibilisation nationale visant à transformer le milieu sportif québécois en un espace plus inclusif pour les personnes lesbo-queer. Au bout du fil, la directrice générale par intérim du RLQ, Cynthia Esrick, nous raconte avoir eu l'idée d'une campagne orientée vers le milieu sportif après avoir assisté à un match de la Victoire de Montréal. Et là, je sais que dans l'émission du vendredi, Francine est une fan de la Victoire, alors on se taquine beaucoup là-dessus. Moi aussi, je suis allé à quelques parties. Est-ce que vous avez déjà vu un match de la Victoire?
Non. Ça fait pas partie de mon historique.
C'est dans votre liste des choses à faire quelque part.
Oui, j'aimerais ça.
Oui, parce que...
Avec vous et Francine, pourquoi pas?
Ah, ben tiens.
C'est un beau projet.
Oui. Okay. Parce que c'est une foule qui est vraiment, vraiment intéressante, qui est vraiment proche de son équipe. Puis, il faut bien l'avouer, c'est aussi beaucoup plus accessible que d'aller voir le Canadien de Montréal.
Vous parlez en termes de prix?
En termes de prix, ouais. Bien sûr.
Ça peut coûter combien, un billet pour aller à un match des Victoires?
Une quarantaine de dollars.
Ah, quand même, c'est assez accessible, oui. Comparativement à un billet pour aller voir les Canadiens.
Exact. Puis c'est à la Place Belle à Laval. On est vraiment bien situé. C'est vraiment intéressant.
Bon, c'est un rendez-vous.
Oui. Alors, je note, puis j'en parle à Francine.
Okay.
Cynthia Esrick nous dit, elle s'est dit, quand elle était au match de la Victoire, elle s'est dit, « Oh my God! Dans la salle, il y a tellement de personnes queer et de personnes lesbiennes et de tout acabit aussi, de toute provenance. Mais c'est vrai que on sent qu'il y a une diversité dans cette foule-là. Là, c'est mon propre commentaire. Elle dit, on s'est rendu compte que le marketing de la Ligue ne s'adressait pas aux personnes de la communauté LGBT+. Explique-t-elle toutefois. On n'est pas vu comme un public cible parce que les ligues ont peur de viser nos publics et d'en perdre d'autres parce que c'est perçu comme quelque chose de négatif. Le RLQ a vu le jour quand même il y a 29 ans, en 1996. À l'époque, l'organisme travaillait principalement à la défense des droits de la communauté et à obtenir des reconnaissances législatives. Aujourd'hui, il cherche davantage à s'assurer que les politiques soient super inclusives et que sa population ne se fasse pas oublier. Avec sa campagne « Changer la game », qui culminera avec la journée de visibilité lesbienne le 26 avril, le réseau se fixe différents objectifs. D'abord, celui d'affirmer haut et fort que, oui, les femmes, et on inclut ici les personnes non-binaires, qui font partie de ces sports-là, peuvent être 100% libres d'exprimer qui elles sont. Dans la foulée, Mme Esrick ajoute, on ne veut pas non plus que les personnes qui ne font pas partie de la communauté se fassent étiqueter comme lesbiennes et que ce soit vu comme quelque chose de négatif. On veut enlever l'aura négative autour du mot lesbienne et autour du fait d'être une personne lesbienne. Selon une étude de Statistique Canada, publiée en 2024, il y a 42% des Canadiens gays et Canadiennes lesbiennes qui ont été victimes ou témoins de traitements injustes, de racisme ou de discrimination dans le cadre d'une activité sportive. c'est plus du double des personnes hétérosexuelles qui, eux, c'est dans l'ordre de 17 %. Donc, vraiment beaucoup plus que le double, en fait. Le RLQ affirme avoir contacté depuis le lancement de sa campagne le 7 avril différentes organisations sportives québécoises afin de leur proposer de prendre des initiatives, comme de mettre en place des politiques anti-discrimination ou d'offrir des formations sur l'inclusion et la diversité. Ça peut être tout simple, s'assurer d'avoir des politiques en place pour l'inclusion, avoir un vestiaire fermé et unique pour s'assurer de la sécurité de tout le monde, énumère Mme Isrick. Parfois, on a l'impression qu'il faut changer tout le système, alors que ce sont de petits gestes qui ont parfois les plus gros impacts. Le réseau et ses membres luttent du même coup contre une invisibilité persistante. L'absence de visibilité et de représentation positive des sportives lesbo-queer nourrit un sentiment d'exclusion, créant un environnement où des athlètes peuvent se sentir invisibles ou dévalorisés. Dans un communiqué de presse, ça a été souligné dans un communiqué de presse de l'association, selon Mme Isrick. Cela décourage de nombreuses jeunes personnes lesbo-queer de s'investir pleinement dans le sport ou de se dévoiler par peur de discrimination ou de marginalisation. Le RLQ transmet aussi son message par l'entremise de sa porte-parole. C'est une athlète olympique qui est connue, qui est un peu connue en fait. C'est l'athlète et présidente de Skateboard Canada, Annie Gouglia. Depuis plusieurs années, cette dernière promeut l'inclusion et la diversité sur ses réseaux sociaux. Encore, il y a quelques semaines, Mme Gouglia publiait une photo d'elle à un match de la Victoire de Montréal à la Place Belle, sur laquelle elle brandit fièrement une affiche sur laquelle elle écrit « Let's go lesbians », « Allez les lesbiennes ». Dans une longue publication, elle raconte avoir été témoin d'une forme de micro-agression envers une jeune fille et revient sur son coming out en tant que jeune sportive à 23 ans. Elle nous dit « Je ne voulais pas être la lesbienne qui fait de la planche à roulettes et j'étais apeurée de la réaction et du jugement des gens si j'étais une autre lesbienne dans le sport », raconte-t-elle, faisant écho au propos du RLQ. C'est de l'homophobie internalisée, mes amis. Être lesbienne n'est pas une insulte, ajoute-t-elle. Les femmes queer existent dans le sport. Les femmes hétérosexuelles existent dans le sport. Les femmes trans existent dans le sport. Toutes les femmes devraient avoir le droit d'exister et de pratiquer des sports tout en étant exactement qui elles sont. Alors, je termine cette lecture en disant que la journée de visibilité lesbienne existe depuis maintenant plus de 43 ans, mais ce n'est que depuis quelques années qu'elle est organisée par le Réseau des lesbiennes du Québec. Cette année, les célébrations auront lieu à un édifice de Montréal qui s'appelle le Queen 8 à Montréal le 26 avril. Selon la programmation dévoilée par le RLQ, il doit y avoir notamment un panel de discussion, une remise de prix, des ateliers et un 5 à 7. Au bout du compte, la journée de visibilité lesbienne, c'est une journée positive. On veut juste rendre les gens visibles. On se célèbre, nous dit toujours Cynthia Isrick.
Et puis, alors, avez-vous l'adresse du 8 Queen ou du Queen 8?
J'ai cherché ça tantôt rapidement, mais je n'ai pas fini ma recherche.
C'est facile, 8 rue Queen. Pas Queen, Queen.
J'aurais dû m'en douter. En fait, je trouvais que le nom de la rue était intéressant dans le contexte, mais non, je n'avais pas fait le lien entre la rue Queen puis le l'adresse.
Bon, mais maintenant, alors, vous voilà. Allez le faire. Merci beaucoup, Yvan. Petite pause musicale, puis on se retrouve pour les brèves.
Oui.
Parlez-nous donc hockey.
Ben oui. C'est rare que je peux parler hockey à la radio, alors...
Profitez-en.
Oui, je me donne...
Vous en avez parlé avec la victoire.
Oui, entre autres. Mais c'est ça, il y a plusieurs semaines, on avait parlé, vous et moi, en ondes, des probabilités que le Canadien puisse se rendre là. Et on a vu hier soir que, de justesse, ils s'y sont rendus.
Oui.
Moi, je revenais de mon travail hier soir, il devait être 9h30, 10h, je pense. J'étais dans une voiture de Communauto et j'ai stationné parce que j'étais arrivé, mais je suis pas sorti de l'auto parce que je voulais continuer à écouter.
C'est sûr. Martin McGuire, qui était tout énervé, oui. Puis Danny Dubé.
Tout à fait. Mais je voulais juste exprimer une petite réaction par rapport à tout ce que les analystes nous ont dit. Il faut se rappeler au début de la saison que le Canadien visait seulement à jouer des matchs significatifs le plus longtemps dans la saison. Puis je pense qu'avec les succès que le Canadien a eu, on a comme un peu oublié ce morceau-là, qu'ils sont dans une courbe montante, mais on s'attendait pas à ce qu'ils se rendent jusqu'aux éliminatoires dès cette année. Et quand j'entendais des analystes qui exprimaient une certaine déception parce que c'était difficile, puis parce que il avait perdu des matchs dernièrement, tout ça, puis je me disais, ouais, je comprends, mais il joue des matchs significatifs jusqu'au dernier match de la saison. Est-ce que leur objectif n'est pas déjà atteint là-dessus? Alors, je voulais juste m'exprimer là-dedans, puis comme j'appelle pas aux ligues ouvertes, mais voilà, c'est vous qui est copé.
Ah, ben non, j'écope pas, je suis bien contente de vous en entendre parler. Prochain match à Washington, on cherchait la date, là, on sait pas exactement.
Ouais, on ne sait pas, ça devrait être soit dimanche, le dimanche de Pâques, ou lundi, d'après ce que j'ai entendu à la radio hier, mais c'était pas encore arrêté au moment où j'écoutais.
D'accord. Go Habs, go! Merci beaucoup, Yvan. Je vous souhaite une belle journée. Là, vous partez pour travailler aux élections.
Ah non, je suis déjà là.
Ah oui, c'est vrai, vous êtes toujours là.
À mon bureau.
D'accord. Ben, joyeuse Pâques, à la prochaine.
Merci.